Vous écoutez, on lit pour vous.
Des gadgets pour vieillir plus sereinement chez soi, un texte de Glenn Chapman de l'Agence France-Presse paru le 9 janvier 2025 dans Le Devoir. Des robots de compagnie qui apaisent les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer aux capteurs dans les toilettes qui détectent les infections urinaires, de nombreux gadgets présentés cette semaine à Las Vegas s'adresse au marché des seniors. Les Américains âgés sont très intéressés par l'intégration de ces technologies à la maison dans l'idée de vieillir à domicile, assure Patty David, vice-présidente de l'AARP, une organisation pour les retraités aux États-Unis. Elle est venue au Consumer Electronics Show, CES, le salon de l'électronique grand public avec plusieurs entrepreneurs désireux de présenter leurs nouveaux produits. Selon elle, le marché américain de la Age Tech, les technologies conçues pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici à 2030. Un secteur qui fait la part belle aux gadgets de santé, car l'accès aux soins est l'un des enjeux majeurs pour les seniors, souligne Anna McKinney, la patronne de Starling Medical. Son entreprise a mis au point un appareil qui se fixe dans la cuvette des toilettes pour tester automatiquement l'urine et vérifier que la personne n'a pas d'infection des voies urinaires. Ce type de maladie fait partie des causes fréquentes de visites aux urgences, même pour les patients qui vivent dans des établissements spécialisés, d'après Anna McKinney. Si vous êtes en mesure de surveiller facilement leur sommeil, leur alimentation, leurs mouvements et leurs analyses d'urine, vous pouvez intervenir beaucoup plus tôt en cas de problème et leur apporter les soins dont ils ont besoin, a-t-elle détaillé. Compagnon canin. Dans le monde, la proportion de la population mondiale âgée de plus de 65 ans augmente plus rapidement que le nombre de personnes plus jeunes, d'après les Nations Unies. L'une des préoccupations majeures des personnes âgées est de trouver comment vieillir sereinement chez soi. Près de 90 % des seniors aux États-Unis s'inquiètent à l'idée de ne pas y arriver, selon une étude publiée mercredi par l'AARP et les organisateurs du CIS. Les dispositifs d'alerte médicale, les tensiomètres numériques, les fauteuils roulants électriques, les caméras connectées et de nombreux autres gadgets font partie des produits censés faciliter la vie malgré la perte de certaines facultés pour rester à domicile en sécurité et de façon autonome. Et au-delà des appareils de santé, certaines entreprises se concentrent sur le bien-être. Tom Stevens a ainsi présenté Tombo au CIS, un chien robot inspiré d'un chiot de la race Labrador Retriever qui remue la queue, aboie et s'endort. Il a raconté avoir eu cette idée après que sa mère, atteinte de démence, a dû se séparer de son chien. J'ai cherché des substituts aux animaux vivants, mais elle n'aimait rien de ce que je ramenais à la maison, relate M. Stevens. Son entreprise, Tombo, prévoit de fabriquer un chat-robot pour les amoureux des félins sur le même modèle, un compagnon apaisant et nécessitant peu d'entretien. Les gens sourient, ils ont envie d'être près de lui, de s'en occuper et de veiller à son bien-être, même s'ils comprennent qu'il s'agit d'un robot et non d'un véritable animal, a assuré M. Stevens. Rouge à lèvres à l'IA. Le géant brésilien de la beauté Grupo Boticário a de son côté amené un prototype de rouge à lèvres connecté qui utilise l'intelligence artificielle pour appliquer le rouge à lèvres sans déborder. Avec l'âge, la vision tend à s'affaiblir et les mains à devenir moins stables, ce qui rend le maquillage plus compliqué. Nous pensons que la beauté est pour tout le monde, a déclaré Mylène Araguchi Padilla, chercheuse de Boticário, lors d'une démonstration. C'est vraiment super pour l'estime de soi. Les commentaires que nous recevons de la part des consommateurs sont très émouvants. Pour l'instant, le prototype qui comporte un repose-menton, une caméra et un bras articulé n'est pas prêt à être installé dans les salles de bain. Et de nombreuses autres technologies ne trouvent pas forcément leur public, car les personnes qui n'ont pas grandi à l'ère d'Internet peuvent trouver ces nouveaux appareils intimidants. Les prix, la facilité d'utilisation et la sécurité des données font hésiter à l'adoption, a reconnu Patty David. C'était « Des gadgets pour vieillir plus sereinement chez soi », un texte de Glenn Chapman de l'agence France Presse paru le 9 janvier 2025 dans Le Devoir.
Le tatouage à tout âge, un texte de Marie-Ève Martel, paru le 20 novembre 2024 dans Virage. Oui, le tatouage à tout âge, c'est possible. Virage en discute avec des femmes qui ont eu la piqûre après 60, 65 et même 70 ans. Nicole, pense-y comme il faut. De que c'est tu vas avoir l'air en robe cocktail avec ça? Ce n'est pas que Normand, le défunt mari de Nicole Marcille Gariepi, voulait dissuader celle-ci de se faire tatouer. Au dire de la principale intéressée, il souhaitait simplement s'assurer qu'elle soit certaine de sa décision. À 73 ans, Madame Marcille Gariepi voulait immortaliser son mantra « La vie est belle » sur son avant-bras. Elle s'est finalement fait tatouer le prénom de ses petits-enfants. Un compromis qu'elle ne regrette pas 3 ans plus tard. Mais si c'était à refaire, j'irais avec mon slogan, confie cette ancienne directrice de caisse populaire qui en a surpris plusieurs avec son audace. Pour sa part, Louiselle Côté était d'avis que les tatouages, c'était une affaire de jeune. Très peu pour elle, donc, jusqu'à ce que sa fille la convainque d'aller au salon de tatouage ensemble cet été. Mère et fille sont désormais liées par 3 cœurs représentant le cocon familial. « Je le trouve beau quand je le vois », dit Madame Côté, 61 ans. Ça me fait penser à ma fille et mon petit-fils. Un tatouage pour s'affranchir. À l'image des témoignages recueillis par Virage, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se faire tatouer sur le tard, confirment des artistes sondés. Honnêtement, les femmes âgées sont mes clientes les plus détendues, observe Janie Godbout, qui tatoue depuis 3 ans. Elles ont tellement de vécu qu'elles ont l'air de se dire « C'est pas un tatouage qui va me faire peur ». Cet été, la jeune femme a tatoué sa cliente préférée à vie, sa grand-mère de 81 ans. La cliente la plus âgée de Jessie Lee Birch, propriétaire de Anxiety Tattoo, avait 104 ans à l'époque. C'était il y a 8 ans. Elle m'avait promis de revenir pour un autre tatouage, confie-t-il. Plus le temps passe et plus je me dis qu'elle ne reviendra plus. Les artistes avancent également que bien des femmes passent à l'action une fois veuves. Michelle Greenwood-Boisvert, artiste chez Gypsy Tattoo, se souvient d'une nonagénaire pour qui être tatouée a été libérateur. Toute sa vie, elle s'est fait dire que c'était mal vu, que c'était une affaire de bandits et de gars d'armée, raconte le tatoueur, comptant 37 ans d'expérience. Son mari ne voulait rien savoir qu'elle ait un tatouage. Mais 3 mois après sa mort, elle s'est assise sur ma chaise. Juste avant que je commence, elle a regardé le ciel et a déclaré « Je m'en fous, Harold, je le fais pareil ». Signification avant tout. Quel que soit le genre de la personne à passer sous l'aiguille, cette première œuvre gravée dans la chair revêt une signification importante. Les hommes vont souvent se faire tatouer une image qui représente leur chien ou la date de décès d'un proche, soutient Jessie Lee Birch. Les femmes vont souvent choisir un dessin floral, minimaliste. C'est souvent quelque chose qu'elles avaient sur leur bucket list. Michel Boisvert relate avoir été profondément touché par une dame dont plusieurs membres de la famille avaient souffert d'Alzheimer. Elle est venue se faire tatouer le nom de ses filles et de ses petits-enfants sur les bras, de même que les meilleurs moments de sa vie, tout ça pour pouvoir s'en souvenir le plus longtemps possible, confie-t-il. Abat les préjugés. De son propre aveu, Carole Marcille entretenait un préjugé défavorable envers les tatouages. À ses yeux, ceux-ci étaient l'apanage des punks et des motards. Puis l'idée de posséder un tatouage a commencé à faire son chemin. La nouvelle retraitée s'est finalement décidée cet été. Après plusieurs semaines de recherche et de réflexion, elle est passée sous l'aiguille pour en arborer d'autres, à savoir une pelote de laine transpercée d'épingles, le symbole d'une passion qui l'anime depuis 20 ans. On dirait que j'avais le goût d'être rebelle un petit peu. Je l'ai vraiment fait pour moi-même, comme un genre d'affirmation de soi, explique celle qui considère répéter l'expérience. À 62 ans, il y a un début à tout. L'essayer, c'est l'adopter. Carole Marcille est loin d'être la seule à avoir eu la piqûre. À peine 3 semaines après son premier tatouage, en août dernier, Judith Audet planifiait déjà d'en ajouter au moins 3 autres à sa collection naissante. Sa fille l'avait prévenue. « Maman, tu vas devenir accro. » Elle ne croyait pas si bien dire. Pourtant, ce premier tatouage, un pissenlit qui s'effrite au vent, a été le fruit d'un coup de tête. Question de marquer ses 65 ans de façon originale. « J'ai osé », lance-t-elle. « Pour moi, c'est un symbole d'indépendance, de résilience et de liberté. » Je ne porte pas de bijoux, alors pour moi, c'est devenu une façon d'orner mon corps, ajoute-t-elle. De son côté, Louiselle Côté ignore si elle retournera chez le tatoueur, mais l'expérience lui a ouvert l'esprit, confie-t-elle. Les gens disent qu'en vieillissant, les tatouages deviennent moins beaux. Mais dans le fond, moi, j'étais déjà vieille, lâche-t-elle à la blague. L'envie de vous faire tatouer vous titille. Le prix d'un tatouage peut aller de quelques dizaines à plusieurs milliers de dollars. La taille de l'œuvre, la complexité de l'illustration et l'expérience du tatoueur expliquent cette amplitude. Est-ce que ça fait mal? La réponse dépend de votre degré de sensibilité. La partie du corps qui sera tatouée influencera aussi votre niveau d'inconfort. Certains artistes se spécialisent dans un type de tatouage bien précis. D'autres ne réalisent que leur propre création. Prenez le temps de chercher afin de trouver un style qui vous convient. La plupart des artistes exposent d'ailleurs leurs œuvres sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une belle vitrine pour découvrir ce qui vous plaît et pour vous inspirer. La peau amincit avec l'âge, précise la tatoueuse Janie Godbout, mais les soins après le tatouage demeurent les mêmes. Bien nettoyer la peau, la laisser cicatriser, l'hydrater et appliquer un écran solaire pour protéger le tatouage. C'était le tatouage à tout âge. Un texte de Marie-Ève Martel, paru le 20 novembre 2024 dans Virage.
Manu et Justin, la fin d'une époque. Un texte de Christian Rioux, paru le 31 janvier 2025 dans Le Devoir. Ils avaient tous deux le même élan juvénile. Il fallait les voir défiler sous les lauriers roses devant la mer étale, le sourire aux lèvres comme s'ils étaient en voyage de noces. Le 26 mai 2017, Emmanuel Macron rencontrait pour la première fois Justin Trudeau au sommet du G7 à Taormine, en Sicile. La presse était conquise et saluait la fraîcheur de ces jeunes dirigeants qui prenaient des selfies avec les Autochtones. Tout leur semblait promis. Emmanuel Macron était élu depuis 19 jours à peine et débarquait avec l'aura du jeune génie de la finance, auteur d'un livre appelé « Révolution », qui allait tout changer. Trudeau n'était aux affaires que depuis un an et demi et surfait encore sur ce que certains avaient qualifié de « Trudeau-mania » en référence à son père. Avec à peine 6 ans de différence, Macron et Trudeau avaient plus que des atomes crochus. Nés sur 2 continents différents dans des milieux aisés, ils ont eu des parcours étonnamment semblables. Ils ont tous 2 étudié chez les jésuites, le premier au lycée La Providence d'Amiens, le second au collège Jean de Brébeuf, où ils firent tous 2 du théâtre. Le premier poussera cette passion jusqu'à épouser sa professeure, alors que le second se contentera de manière plus prosaïque de donner des cours d'impro. Le premier était issu du monde de la finance, où il n'avait joué jusque-là qu'avec des concepts abstraits, vendant, achetant ou fusionnant des entités sans âme ni personnalité. Il n'avait jamais rencontré un électeur de sa vie. D'ailleurs, au premier qu'il rencontrera, il ordonnera de traverser la rue pour se trouver un emploi. Avec son profil d'éternel adolescent, le second était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Un capital qu'il n'avait jusque-là pas vraiment fait fructifier, se contentant d'études banales et de petits emplois. Mais tous 2 avaient des réseaux. Le premier dans la finance, le second dans l'état profond, à cause de son père. Cela leur permettra d'accéder rapidement aux plus hautes fonctions. Le premier aura la chance extraordinaire que le favori de l'élection de 2017, François Fillon, soit opportunément visé par une enquête en pleine campagne. Le second fut propulsé premier ministre grâce à l'effondrement soudain et inattendu du chef du nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair. Si le premier s'est toujours complu dans un langage technocratique, le second a toujours pratiqué un dialecte approximatif, signe d'un mépris envers la langue des Québécois et d'un étonnant vide intellectuel. Mais c'est sur le plan politique que leur parcours se rejoint le plus. « Je suis totalement aligné avec Emmanuel Macron », avait déclaré Justin Trudeau au journal Les Échos lors de sa première visite officielle en France. Sans réaliser évidemment que l'on n'est pas aligné avec, mais sûr, et que cela revêt toujours un parfum de soumission. Ces 2 progressistes partisans d'une mondialisation tous azimuts arrivaient malheureusement sur la scène politique avec un peu de retard, alors que celle-ci avait déjà du plomb dans l'aile. Eussent-ils été élus au début des années 1980, lorsque la mondialisation promettait mer et monde, que leur destin eût été différent. Malgré leur jeunesse, ils deviendront vite les représentants tardifs d'un système vieillissant qui n'a cessé depuis de se déliter. Il n'est pas exagéré de voir en eux les derniers représentants de cette mondialisation heureuse où l'ouverture des frontières n'était pas encore synonyme de désindustrialisation, de chômage, de paupérisation, d'immigration massive et d'insécurité. C'en serait bientôt fini des nations, proclamait-il. Il n'y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse, soutenait Emmanuel Macron, pour qui la France n'avait et n'a toujours d'autre horizon que de se dissoudre dans l'Europe. Son vis-à-vis canadien se voyait déjà à la tête du premier État post-national du monde. L'immigration massive étant censée accélérer ce processus de dissolution des nations, celle du Québec tout particulièrement. Pas surprenant non plus que, malgré le maintien d'une certaine tradition diplomatique, le Québec ait souvent fait tapisserie à Paris depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Là-dessus, les 2 hommes se sont toujours entendus. Malheureusement pour eux, les nations ont la vie dure et le rêve d'un monde sans frontières semble aujourd'hui s'éloigner. Dès le début de leur mandat, les désillusions sont apparues. Pour Macron, ce fut la révolte des Gilets jaunes, ce peuple en colère contre une technocratie mondialisée et hors sol. avec son rêve utopique de 500 000 immigrants par année d'ici 2025 et son appel aux réfugiés du monde entier, Trudeau s'est aussi heurté à un mur. Se pourrait-il qu'on change d'époque? Un signe ne trompe pas. On ne se bousculait pas cette année au sommet de Davos, cette mecque des mondialistes de gauche comme de droite où Trudeau et Macron étaient comme des poissons dans l'eau. Le camp dit de la raison n'a plus la cote. Peut-être parce que son individualisme forcené a ouvert la porte aux aberrations wokistes et aux rêves délirants d'un homme sans nation, sans famille et sans sexe, livré au marché, comme ce Dieu vivant qu'est devenu l'immigré. Les deux hommes auront été l'ombre l'un de l'autre jusque dans la chute. Avant d'être démissionné, Trudeau dirigeait un gouvernement minoritaire depuis 2019. Quant à Emmanuel Macron, seuls les pouvoirs de la Ve République lui permettent encore de demeurer président. Sans majorité au Parlement, il n'a même pas pu choisir son premier ministre et les deux ans qui restent s'annoncent interminables. Qu'il est loin, le soleil de la Sicile. C'était Manu et Justin, la fin d'une époque. Un texte de Christian Rioux, paru le 31 janvier 2025 dans Le Devoir.
Quand quelqu'un se perd en forêt. Un texte de Marie Tison, paru le 18 janvier 2025 dans La Presse. Une personne qui se perd en forêt, surtout en hiver, c'est dramatique. Ça peut arriver dans les Adirondacks ou dans les montagnes de l'Utah, mais aussi dans les régions isolées du Québec. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un manque à l'appel? La plupart du temps, l'appel vient de la famille, note Guy Lapointe, président de l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, AQBRS. Les policiers, qu'il s'agisse d'agents de la police municipale ou de la Sûreté du Québec, SQ, commencent par discuter avec la famille, les autres témoins. Il s'agit notamment d'établir un profil de la personne. C'est la première étape de l'enquête. Si ça vient de la résidence, les policiers vont commencer par faire la vérification du garage, du cabanon, du sous-sol, indique M. Lapointe. Systématiquement. Ils vont faire des recherches aux alentours, auprès des voisins, toujours en fonction du comportement de la personne et du genre de profil. Les policiers communiquent également avec les sociétés de téléphonie pour obtenir les données du téléphone cellulaire de la personne manquante dans l'espoir de la géolocaliser. Et ils examinent aussi les données liées aux cartes bancaires. Est-ce que la personne a fait un achat? À quel endroit? Il s'agit d'identifier le dernier point connu. La résidence, le dernier commerce fréquenté ou encore le véhicule de la personne manquante. C'est à partir du dernier point connu que les autorités vont commencer à faire les recherches. La SQ va d'abord déployer des équipes canines, possiblement un hélicoptère. Puis, elle va faire appel aux ressources de l'AQBRS et leur assigner des secteurs de recherche. Les bénévoles de l'AQBRS suivent une formation et passent un examen pour obtenir une accréditation du ministère de la Sécurité publique. Nous avons autour de 650 membres, répartis dans 24 groupes à travers la province, nous dit Guy Lapointe. Ce sont des gens passionnés, très dévoués, avec un encadrement très rigoureux. Ils ont tous une formation de base en recherche au sol, ce qui comprend des notions en comportement humain. L'enquête initiale et le profil dressé par la police sont des éléments primordiaux. On va regarder la santé physique de la personne, sa santé mentale, sa capacité à se débrouiller seule, énumère Guy Lapointe. On va regarder les outils qu'elle a avec elle, carte, boussole, GPS, et la capacité de s'en servir. Est-ce que la personne est habile à faire un feu, à se couvrir pour la nuit? On va regarder la géographie du terrain, les endroits où la personne a l'habitude d'aller, la distance qu'elle peut parcourir. Cette distance sera évidemment différente pour un enfant ou encore pour une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer. Certains bénévoles sont spécialisés en pistage. Ils vont repérer des traces au sol, un bris de végétation. Mais tous les bénévoles ont une formation de base en protection d'indices. À partir du moment où on trouve un indice, on le fait vérifier avec le chef d'équipe, explique M. Lapointe. Si l'on voit la pertinence, on va marquer l'endroit avec un point GPS, on avise le poste de commandement de l'ASQ. Ils peuvent décider d'envoyer l'équipe canine ou de nous faire continuer. D'autres bénévoles peuvent se spécialiser dans l'utilisation de VTT, de motoneige, de vélos de montagne ou de drones. Ce dernier est de plus en plus apprécié, surtout avec de nouvelles technologies comme la vision infrarouge et avec des changements dans la réglementation qui permettent de faire voler ces appareils plus loin, hors de vue. On met toutes ces ressources ensemble, souligne Guy Lapointe. L'enquête, l'équipe canine, l'hélicoptère, les drones, les chercheurs au sol, le vélo de montagne. Notre taux d'efficacité est très élevé, à moins que la personne ne soit pas du tout dans le secteur qu'on cherche. La formation vise aussi à prévenir le choc que représente la découverte d'une personne morte. Il y a un processus de débriefing post-traumatique, précise M. Lapointe. Au moins, on a retrouvé la personne, on apporte une réponse. C'est également difficile lorsqu'on doit mettre fin aux recherches sans avoir retrouvé la personne. On calcule qu'on a fait notre maximum. À un moment donné, ça dépasse nos capacités. Évidemment, bien des gens qui ne font pas partie de la QBRS, touchés par une disparition, veulent donner un coup de main. Comme ils n'ont aucune formation en recherche et sauvetage, leur présence peut être problématique. La police peut toutefois leur assigner certaines tâches pour leur permettre de se sentir utile, comme marcher dans les sentiers et appeler la personne manquante. Mais pour ratisser en forêt, on ne prend jamais de bénévoles spontanés, affirme M. Lapointe. Nos membres ont une expertise particulière. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire des ratissages en forêt avec tout l'équipement, la condition physique, les techniques de recherche, la structure qu'on a. Par contre, l'association est toujours prête à accueillir des gens de plein air qui veulent suivre la formation et s'investir dans la recherche et le sauvetage. C'était « Quand quelqu'un se perd en forêt », un texte de Marie Tison paru le 18 janvier 2025 dans la presse.